On va déguster tous les dimanches sur France Inter à partir de 11h.
Je peux goûter comme ça?
Oui, bien sûr.
C'est bon.
Autrefois, avant les transports, le terroir francilien nourrissait tout Paris, hein, y compris la vigne. La région Île-de-France était la première région viticole de France, on l'a oublié, mais en surface, c'était la première région viticole de France, hein, jusque dans les années 40-50.
La principale activité, c'est le lait, c'est la production laitière. On transforme 100 000 litres de lait dans l'année, mais notre objectif, c'est 250 000. Après, c'est tout.
On a la chance ici, nous, dans notre bocage gâtinais, d'être une bonne quinzaine de producteurs en bio, sur des petites surfaces. Et ça, ça permet vraiment aux gens de manger bio, local et de saison.
Et puis ça permet de découvrir toute la richesse du terroir francilien dont on n'a aucune idée au final.
Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur le plateau dont on va déguster. Vous imaginez Paris et sa banlieue en grand royaume du béton, avec ses embouteillages, ses RER bondés, ses cheminées d'usines. Vous n'avez pas totalement tort, mais on va voir que Paris et sa grande couronne réservent parfois, malgré l'urbanisation galopante, de belles surprises bucoliques. On explore aujourd'hui la face cachée de la région parisienne, une face champêtre, agricole et nourricière. Deux invités sont avec nous pour en parler. Eva Jorena, bonjour.
Bonjour.
Vous allez bien ?
Super, merci.
Vous êtes présidente et cofondatrice d'une association solidaire inscrite dans une logique territoriale, ça s'appelle Ernest. C'est assez formidable, vous venez en aide à des familles en grande précarité en leur proposant une alimentation bio et locale. Vous allez nous expliquer le principe de votre association. Et vous venez d'ouvrir également à Pantin en Seine-Saint-Denis le restaurant cantine Mingue avec vos associés Florent Ciccoli et Grégory Pack. Les gourmets parisiens les connaissent, c'est l'ancienne bande des Pères Populaires. Vous pratiquez avec le chef Léo Haïd Bahadou une cuisine saine, bon marché, majoritairement locale. Voilà, vos deux projets, c'est Ernest et Mingue. Ce sont vos deux projets, mais rien à voir avec un certain écrivain américain. Jérôme Gentric, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes cofondateur de Biovore, une application qui permet aux particuliers, mais aussi aux professionnels, de localiser, d'acheter directement chez les paysans franciliens des produits issus de l'agriculture biologique. Votre activité est centrée à Paris, vous vous développez bientôt dans d'autres villes, je crois.
Exactement. Donc on va commencer par le sud et pour arriver dans toute la région ouest.
Marseille, Lyon.
Exactement.
Très bien. Et vous nous avez apporté les pépites que vous avez dénichées un peu partout autour de Paris. Vous allez voir, ils s'en passent de belles dans les champs tout autour de Paris. Je suis allé me balader d'ailleurs avec mon micro en Seine-et-Marne, le premier département agricole d'Île-de-France. On va vous faire découvrir, chers auditeurs, des paysans formidables engagés dans une agriculture du vivant avec lesquels vous travaillez. Jérôme Gentric, c'est vous qui nous avez mis sur leur voie. Dans les fauteuils des chroniqueurs aujourd'hui, notre libraire gourmande Déborah Dupont, notre chroniqueur vin Jérôme Gagnès. Bonjour les amis.
Bonjour à tous.
Bonjour.
Ça va Débo ?
Ça va bien.
Alors ?
Moi je vais vous livrer un secret de famille puisque je suis une famille francilienne et donc ce sera un petit truc de ma grand-mère.
Oui, recette francilienne de votre grand-mère Déborah. Jérôme ?
Ça a commencé à San Francisco et ça se poursuit à Montreuil, près de Paris.
Et ça mousse ?
Et ça mousse.
Très bien, bonne nouvelle. Et c'est à boire, évidemment, on n'en attendait pas moins de Jérôme Gagnès. Laurent Thomas réalise l'émission avec Kevin Pelot, Nadia Chougui pour la préparation et l'animation de notre page internet, franceinter.fr, à la page On va déguster, où l'on retrouve nos infos, nos recettes et le podcast dont on va déguster.
France Inter, on va déguster avec François-Régis Gaudry.
Juste avant de voyager dans le terroir francilien, je vous emmène dans un autre terroir, car oui, mes amis, j'ai une bouteille à mes côtés, nous avons quelque chose à fêter aujourd'hui. Attention, ouf, l'entrée dans le Petit Robert d'un nouveau mot désignant, vous la constatez, ça mousse dans mon verre, désignant une boisson pétillante que l'on va évidemment faire deviner à l'aveugle. J'aime bien tendre des petits traquenards à mon voisin de droite, Jérôme Gagnès. Vous nous la décrivez, essayez de deviner ce que c'est, Jérôme. Vous avez, allez, 10 secondes.
C'est un nez qui est plutôt discret, plutôt floral. Petite touche d'agrumes très, très légère, plutôt pomme. C'est pas désagréable, c'est plutôt un joli nez.
Merci. Vous avez le droit de jouer à ce petit jeu, hein, chers amis, autour du plateau dont on va déguster.
Bon, c'est très méridional comme style. L'effervescence n'est pas d'une grande finesse, mais c'est plaisant. Il n'est pas tout à fait assez frais. Donc c'est pour ça que l'effervescence est un peu plus large, en fait. L'amertume est très jolie, elle tient le vin. C'est vraiment l'élément central de l'équilibre de ce vin, c'est l'amertume.
Vous aimez ?
C'est très agréable à boire. Hein. C'est, je vois bien pour l'apéro, des choses comme ça, c'est très...
Effectivement,
ça boisson d'apéro. Ça fait furieusement penser à un vin italien,
oui,
type Prosecco ou Lambrusco.
Bon, alors Lambrusco... Là. Ah, non, pardon.
Enfin, moi, ça fait plutôt penser à un Prosecco.
Prosecco, mot italien, nom d'un ancien village près de Trévise, vin blanc effervescent italien. Et ben voilà, Prosecco entre dans le Petit Robert, édition 2019.
Ça fera plaisir aux champenois.
Ça vous fait une belle jambe. Et là, on est dans la province de Vérone avec cette cuvée chez la famille Furia. C'est une cuvée 95% Glera, 5% Pinot Grigio. C'est frais, c'est floral et c'est le domaine Tenuta Salvatera, cuvée Corteggiona, et c'est à 11,50€, notamment chez notre ami Alessandra Pierini.
Excellent rapport qualité-prix.
C'est un très bon rapport qualité-prix pour un vin extrêmement bien fait et très équilibré. Voilà, bah, célébrons l'entrée dans le dictionnaire de notre Prosecco, principal concurrent de notre champagne. Mais en tout cas, c'est une très bonne nouvelle pour cette appellation italienne. D'ailleurs, au rayon gastronomie, le Petit Robert accueille d'autres mots alléchants. Jérôme Gagnès va forcément nous donner une définition claire d'un autre mot du Dico édition 2019 du Petit Robert, c'est zytologie.
Ah non, alors là, je suis sec. Zytologie.
Ouais, du grec, zytos, bière. Étude de la bière, de sa production, de son histoire et de ses propriétés gustatives. Vous me rappelez le sujet de votre chronique tout à l'heure?
C'est la bière.
Ah, d'accord. Il a bien bossé.
Eh ben, en fait, mais je suis comme Monsieur Jourdain. Je fais de la zytologie sans le savoir.
Voilà, vous faites, ou on peut dire aussi biérologie.
Ah, ben voilà.
Mais zytologie est un peu le mot savant. Sinon, j'ai également à mes côtés le Larousse, qui accueille cette année dans ses colonnes un nouveau mot qui nous intéresse particulièrement en ce dimanche à la page 679, locavorisme. Oui, locavorisme, et la définition, c'est mouvement prônant de ne consommer que des fruits et légumes locaux et de saison afin de contribuer au développement durable. Pourquoi que des fruits et légumes? Ça peut être aussi éventuellement des viandes. Je suis pas tout à fait d'accord avec le Petit Larousse. Faut qu'ils rebossent un peu leur définition. En tout cas, nous, on met le locavorisme en application aujourd'hui. On vous propose une virée champêtre et gourmande aux portes de la capitale. Bon appétit sur France Inter.
We're back to the start again. When she gonna set me free? I've been there time and time again. The girl's no good for me and you. She hurts me too. I heard she broke your heart again. I heard she broke your heart.
Le groupe anglais Métronomie brisait des cœurs hier à Wheel of Green. C'est quand même un événement qui fait du bruit aux portes de Paris. On est au Bois de Vincennes pendant tout le week-end. D'ailleurs, France Inter est en partenariat avec cet événement et le concert de Métronomie sera bientôt diffusé sur nos ondes. Un festival considéré comme nouvelle génération, festival éco-responsable, avec une programmation musicale ambitieuse, 50 concerts, qui s'accompagne aussi, et là ça nous intéresse, d'une programmation culinaire à la hauteur de l'événement. Et j'ai d'ailleurs eu la chance d'être le président du jury qui a cette année sélectionné 35 stands de restauration autour d'un thème qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui, Paris nous nourrit. Oui, les candidats qui ont porté candidature pour accéder à Wheel of Green cette année devaient s'engager à être les plus locavores possibles. Il y en a une qui est une grande habituée de Wheel of Green, c'est Eva Jorena.
Oui, bah, c'est la troisième année que je suis présente au festival. C'est toujours un grand plaisir de participer.
Et vous, vous êtes doublement contente puisque vous avez deux stands, Ernest et Mingway. Alors Ernest, c'est votre association. Mingway, c'est la nouvelle cantine dont on va parler que vous avez ouverte à Pantin dans le 9-3. Et vous pratiquez pendant tout le week-end ce qu'on pourrait appeler une gastronomie de camping. Est-ce que ça vous va, sans être évidemment péjoratif?
Ça me va très bien.
Qu'est-ce que vous êtes en train de servir aux nombreux festivaliers en ce moment?
Alors, je vais vous donner des exemples de ce qu'on sert sur nos stands. Une grande attention est portée aux recettes végétariennes. Mm-hmm. Parce que quand on vient sur Wheel of Green, on doit aussi calculer l'empreinte carbone de chacune des recettes. Mm-hmm. Et donc, pour ce faire, on réduit évidemment les quantités de viande dans chacune des recettes. Et voilà, on est tous obligés d'avoir du végétarien qui se vend très bien. Donc, nous, notre sandwich sur le stand d'Ernest est à base de légumes en pickle à la japonaise, donc oui. Des tsukemono, mm-hmm. De carottes, choux rouges.
Ah, ça, c'est délicieux.
Et les
pickles, c'est acidulé, ça se mange comme des bonbons.
Donc, c'est des légumes qui viennent du jardin du Pont Blanc à Sevran dans le 93, qu'on accompagne d'un fromage frais de vache qui vient de la laiterie de Paris. Donc, c'est.
Voilà. Dans le 18e.
Dans le 18e, cette laiterie qui produit tous ses produits donc dans Paris.
Donc, vous arrivez à faire vraiment une gastronomie bon marché et de qualité avec des produits majoritairement franciliens. C'est aussi d'ailleurs l'esprit de la cantine solidaire que vous avez ouverte à Pantin. Vous êtes installé au cœur du CND.
Le Centre National de la Danse.
Oui,
tout à fait.
Ça a ouvert quand?
Ça a ouvert il y a pile 2 mois. On est très contents, on a reçu un super accueil dans ce centre national, et justement avec un public très varié qui est composé à la fois de danseurs, de salariés du CND, mais aussi tout le voisinage, donc les gens qui travaillent à Pantin, mais aussi les habitants. Donc on est installé dans cet atrium qui est un grand hall où on a beaucoup de tables.
16 € entrée, plat, dessert, avec des produits de grande qualité, dont la plupart viennent vraiment de la région francilienne.
Tous nos fruits et légumes sont bio.
Tous vos fruits et légumes sont bio.
Et pour le reste, on travaille de toute façon avec des producteurs qui sont raisonnés. Donc c'est des petits producteurs en direct. C'est la qualité qui prime.
Vous avez préparé, vous nous avez fait cette surprise, Eva, avec Léo, votre chef, quelques recettes. Et c'est une sacrée performance car on doit préciser à nos auditeurs que vous avez votre bras droit quasiment dans le plâtre. Hein. Vous avez une entorse?
J'ai une attelle.
Une attelle, compliquée de cuisiner. Heureusement, il y a Alexandra qui vous aide au restaurant Mingway qui est avec vous à vos côtés. On va commencer par casser la croûte.
Cassons la croûte. Léo prépare très souvent le céleri rave et le chou rave en croûte de sel. Donc ça a l'apparence d'un ballon de football là.
Oui, carrément, c'est exactement le format d'ailleurs.
Donc c'est des blancs d'œufs montés,
oui,
en neige,
oui,
avec du sel et de la farine. Mm-hmm. On entoure le légume dans cette croûte.
Oh là là, c'est beau, et on ouvre le paquet cadeau.
On met au four assez longtemps. Et
combien
comme
de
ça,
temps?
Au moins 1 heure. Et comme ça, il cuit dans son humidité, il garde tous les jus. Et on va le servir tout simplement avec de l'huile d'olive et du gros sel pour le faire goûter.
L'intérêt de la croûte de sel, c'est que c'est vraiment un régulateur d'humidité. Ça,
oui, contient,
ça cuit à l'étouffée, ouais, et ça garde toute la jutosité des légumes. En l'occurrence, donc là, c'est un céleri rave. Il vient d'où?
Il vient d'Île-de-France.
Oui.
Moi, mon fournisseur de fruits et légumes, c'est le Zingam, qui est cette épicerie de quartier dans le 11e.
Oui.
Et il travaille avec Pierre Rigaud. Lui, il est à Groslay.
Oui,
et
dans le 95, dans le Val d'Oise.
Et le céleri vient d'Herblay.
Alors, qui nous goûte, Déborah? Ce céleri qui a belle allure. Hein. Il est luisant, il a l'air tout juteux, en même temps bien confit.
C'est très très bon parce qu'il est complètement fondant.
Mm-hmm.
C'est très parfumé, alors c'est sûr, faut aimer le céleri,
oui,
ce qui est mon cas. De toute façon, les cuissons en croûte pour le céleri, c'est vrai que c'est assez magique, ça s'y prête bien. En plus, on l'oublie au four, donc tout le monde peut faire ça à la maison.
Mm-hmm. Qu'est-ce que vous en pensez, Géro, de la qualité de ces produits cultivés vraiment aux portes de Paris? Il y a quelque chose qui est en train de changer dans l'agriculture francilienne quand même.
C'est certain. Des produits, quand on est ultra locaux, ils sont vraiment complètement maturités et ils sont meilleurs, gustativement parlant, ils sont nettement meilleurs.
Il fut quand même un temps où, et pas si lointain d'ailleurs, les Parisiens se nourrissaient avec des fruits, des légumes, des viandes, des produits laitiers cultivés ou élevés dans le bassin parisien. Après, pour plein de facteurs, effectivement, cette petite agriculture a disparu. Il y a eu d'abord le chemin de fer qui a peu à peu fait dérailler cet idéal locavore parce qu'on pouvait désormais acheminer des denrées de la France entière. Puis il y a eu surtout l'urbanisation galopante qui a été une concurrence féroce aux champs. Aujourd'hui, l'image que l'on a de l'agriculture francilienne, c'est quand même une agriculture majoritairement céréalière, maraîchère, avec de très grosses exploitations, tournée plutôt vers une agriculture productiviste, subventionnée, assez intensive, mais le bio, l'agriculture paysanne se réveille, et vous nous le confirmez, vous avez les chiffres, Géraud.
Ah, c'est certain, en fait, elle se réveille vraiment, parce qu'en 2018, on totalise grosso modo 20 000 hectares en agriculture bio. Quoi. 20 000 hectares, ça représente quoi? C'est peu. Sauf qu'il faut voir un autre facteur qui est encore plus important, c'est celui qu'il y a une croissance à deux chiffres tous les ans. Quoi. Donc là, l'année dernière, c'est 30%. Et tous les ans, c'est toujours... Mais
les surfaces bio en Île-de-France, en 2018, ont augmenté de 30,5%, ce qui est vraiment considérable.
C'est colossal, ouais. C'est considérable.
Mais c'est inouï. Et en fait, pourquoi? Parce que tous les producteurs qui se sont convertis, ça marche. Tout le monde y va quoi, maintenant. Quoi. C'est très important. Quoi.
On trouve de tout, du maraîchage, des produits laitiers, du miel, des boissons, on trouve absolument...
Même des gâteaux.
Vous en avez apporté? Ils viennent d'où ces gâteaux?
Les gâteaux du Moulin Chantemer en Seine-et-Marne, et c'est fait à la ferme. Quoi.
Avec des céréales locales?
Pas plus locales. Quoi.
Vous avez monté il y a 2 ans une application mobile qui s'appelle Biovore.
Exactement.
D'où est née cette idée?
D'un moment où on se dit, les gens parfois, s'ils ne mangent pas forcément bien... C'est peut-être qu'ils n'ont pas le choix ou ils n'ont pas la connaissance. Quoi.
Vous recensez combien de producteurs autour de Paris?
Alors, grosso modo, donc, moi j'en ai rencontré à peu près une cinquantaine.
Oui.
Je ne les ai pas tous sélectionnés parce qu'au niveau gustatif, ils ne me correspondaient pas.
Oui.
Et donc là, maintenant, nous en avons une trentaine. Quoi.
Je vous emmène, et sur le conseil de Géraud Gentric, justement, à 63 km de Paris. Voilà un producteur dont les produits sont référencés sur votre application Biovore. On est dans le département de la Seine-et-Marne, à Pessy, au nord-ouest de la ville de Provins, dans une exploitation qui s'appelle la Fromentellerie, une exploitation laitière de très haute qualité, qui fait des yaourts, des fromages bio, de la faisselle, du lait, du fromage à pâte fleurie, du lait cru absolument extraordinaire, biologique évidemment. J'ai rencontré Yves de Fromentel, l'un des meilleurs porte-parole de l'agriculture paysanne en Île-de-France. Il nous délivre un propos très fort sur l'agriculture holistique. Holistique, ça veut dire quoi?
Holistique, dans le dictionnaire, ça veut dire global. En fait, j'ai rien inventé. Je ne fais que retrouver ce que nos ancêtres faisaient tout naturellement quand ils étaient dans le sens de leur métier, dans le sens de leur activité. Donc sur la ferme, ils avaient tous des animaux et ils avaient de la culture. Les animaux nourrissent le sol nourrit les plantes et les plantes nourrissent les animaux, c'est le cercle vertueux. Et donc le bio holistique, c'est pas du bio politique comme beaucoup se fait. On a une obligation de résultat et non pas seulement de moyens. Le bio, c'est je respecte les interdits, j'ai pas mis de chimie, je suis bio. Un aliment bio holistique, il doit avoir de l'odeur, de la saveur et il se conserve. Souvenez-vous, vos grands-parents, le fruit de l'hiver, c'était la pomme. Et la pomme, on la ramassait par terre, on la mettait au grenier ou à la cave, à l'abri du gel, et on la mangeait jusqu'au mois de mars, avril. Et elle avait encore de l'odeur, de la saveur, et elle se conservait. Pourquoi elle se conservait? Parce que tous les vergers étaient pâturés par des moutons, par des vaches, par des chevaux. Et donc ces herbivores ont un système digestif qui est fait de bactéries, et ces bactéries se retrouvent dans les déjections. Eh bien, ces bactéries, une fois qu'elles ont transformé les éléments minéraux en éléments organiques, le pommier, il a son garde-manger à ses pieds, et il prend un peu de bord, un peu de fer, un peu de cuivre, tout ce dont il a besoin. Et quand vous mangez cette pomme avec la peau, bien sûr, parce qu'il y a plein d'éléments nutritionnels dans la peau, ces éléments nutritionnels vont nourrir vos cellules. Vous savez que les cellules de vos papilles ont 10 jours, vos cellules de l'odorat ont 3 mois. Toutes les cellules de votre corps se renouvellent, vous avez un corps neuf tous les 3 ans. Donc le paysan, c'est le premier acteur de votre santé. Et aujourd'hui, on est en train de vous empoisonner. Il faut retrouver une sécurité alimentaire à proximité de chez vous. On va vous produire du lait et des produits laitiers. Vous venez prendre des produits laitiers. On va produire du pain, on va produire de l'huile, on va produire de l'alimentation qui est consommable. Donc vous allez pouvoir venir chez nous et puis trouver tous ces aliments pour pouvoir vous nourrir et avoir la sécurité alimentaire à côté de chez vous. C'est ça qu'il faut faire.
Eva Jorena, vous connaissez Yves de Fromentel?
Non, pas encore.
Vous n'avez pas encore essayé ces yaourts, ces faisselles? Je vous les ai pas apportés, je les ai tous finis. Je suis vraiment désolé. Enfin, c'est délicieux, non?
Ce petit lait, c'est extraordinaire.
On est dans un cercle vertueux. En plus, on a compris que c'était d'une ferme en totale autonomie. Mmh. Il parlait de pommes. Notre ami Yves de Fromentel de la Fromentellerie, à Pessy, en Seine-et-Marne, là j'aperçois un jus de pomme, vinaigre
exactement,
de cidre bio.
C'est toujours en Seine-et-Marne, la ferme de l'abondance, dans le Gâtinais. Là on descend beaucoup plus bas.
Est-ce que Eva Jorena pourrait le goûter? On va voir si elle valide ce produit et si elle va l'afficher dans son restaurant Mingué à Pantin.
Il est délicieux. Très bon, il est sucré, il est très parfumé.
Tout à l'heure, au rayon dessert, Eva Jorena, vous allez nous préparer justement un crumble avec des pommes.
Avec des pommes et de la rhubarbe.
Et des pommes qui viennent?
Qui viennent également de chez Pierre Rigaud, donc qui viennent de Groslay.
Saviez-vous, Jérôme Gagnès, qu'on faisait beaucoup de vin tout autour de Paris, jusqu'à une époque récente, jusque dans les années 50-60?
Oui, ça a été la première région viticole de France. C'était un cépage principal qui s'appelle le Gouais, qui a aujourd'hui complètement disparu, qui est quand même à l'origine d'un très grand nombre de cépages qu'on connaît aujourd'hui. Le Gouais, c'est le géniteur du Chardonnay, c'est le géniteur du Pinot Blanc, c'est le géniteur d'un très grand nombre, de la Ligotée, d'un très très grand nombre de cépages. De ce qu'on retient des écrits, ça faisait du très mauvais vin. Ça abreuvait évidemment Paris et sa région. Et puis l'arrivée du chemin de fer a mis un coup d'arrêt très brutal, parce que tout d'un coup, grâce au chemin de fer, les vins gorgés de soleil du Languedoc arrivaient à Paris. Et encore un peu avant, les vins d'Irancy, par voie fluviale, par Lyon puis la Seine, arrivaient aussi à Paris. C'est pour ça que voilà, Bercy était une grande place de vin. Donc oui, c'était un très grand vignoble.
Et vous savez qu'il y a des néo-vignerons qui ont décidé de relancer la viticulture en Île-de-France. Je vous propose de nous intéresser au cas extraordinaire de Patrick Féliot. C'est un ancien patron de PME. Il a décidé de tout plaquer à plus de 60 ans quand même pour devenir maraîcher et vigneron en Seine-et-Marne, en agriculture biologique. On n'est pas très loin de Fontainebleau. Oui, la viticulture était très présente autrefois et elle renoue avec ses racines en ce moment dans toute l'Île-de-France. On part à la rencontre de notre jeune paysan de 65 ans, au cœur de son clos de Nonville.
C'était un domaine qui était à l'abandon, puisque ça a été un parc d'attractions pendant un moment. Donc tous ces bâtiments étaient des bureaux. Il pleuvait à l'intérieur, enfin c'était dans un état très très avancé.
Et vous avez tout restauré ?
Oui, on est en train de finir de tout restaurer parce que les budgets évidemment ont été dépassés. Du coup, on va faire des chambres d'hôtes. Là, on est en train de faire 5 chambres d'hôtes. Voilà.
Là, on est devant une espèce de canal ou de bassin.
Oui, c'est un petit étang qu'on a découvert d'ailleurs parce qu'il était couvert de ronces et on le voyait même pas quand on est arrivé. Donc, c'est une petite pièce d'eau avec des grenouilles qui se surpassent en ce moment.
C'est impressionnant. Il y a des murs anciens sur lesquels il y a des arbres fruitiers, j'imagine. Là-bas, on aperçoit un pont.
Dans les ronces, j'ai retrouvé des vignes anciennes. Des vignes, vous savez qu'on n'est pas très loin de Thomerie, donc je pense qu'il y a une tradition de raisin de table qui persiste. Donc on a réussi à sauver celle-là des ronces. Je ne sais pas ce qu'elles vont donner, mais enfin, en tout cas, elles sont toujours vivantes. Voilà.
Vous relancez de la viticulture puisque désormais il est autorisé de planter des vignes.
Il y a un certain nombre de gens qui ont eu des autorisations. Un qui se trouve au Holm, il y en a qui se trouvent aussi dans l'est de Paris. Alors, faut être réaliste, hein, on ne parle pas de milliers d'hectares, on parle de quelques dizaines ou centaines d'hectares, pas plus, ça au total. Hein.
Et vous, en l'occurrence, vous avez planté combien d'hectares ?
Moi, j'ai eu l'autorisation parce que c'est très formel. Hein, c'est totalement géré par les douanes et puis par Agrimaire. Moi, j'ai eu l'autorisation de planter 7 hectares au total.
Que vous avez déjà planté ?
Non, alors on a planté 2 hectares la première année.
On les voit là. Ouais.
Voilà. Et puis là, on est en train de planter, là, cette semaine, on est en train de finir de planter les 5 hectares qui restent.
Qu'est-ce que vous avez choisi comme cépage ?
Alors, vu notre positionnement, on a choisi de la qualité, on a choisi ce qu'il y avait de mieux comme qualité, parce que c'est pas avec 7 hectares qu'on va inonder le marché. On met du Chardonnay blanc, on va mettre un peu de Sauvignon, et ici on met du Pinot Noir.
D'accord, donc vous allez faire du blanc et du rouge ?
Oui, voilà, tout à fait. Parce que c'est une terre, d'après ce que les spécialistes ont expliqué, c'est une terre qui est très proche de la Bourgogne, en fait, ici.
Voilà, c'est-à-dire, si vous pouviez la définir un peu géologiquement ?
Oh, c'est une terre très très calcaire et très caillouteuse. Hein, donc, en fait, on est au bord du bassin parisien, là, ici. Hein. Et c'est vrai que c'est une terre qui ne pouvait pas servir à autre chose. C'est pas là-dessus qu'on pouvait planter du blé ou autre chose. Quoi, voilà.
Donc, Chardonnay, Pinot Noir, c'est une petite Bourgogne au port de Paris.
Ben, j'aimerais bien, c'est un bon, ce serait un bon objectif.
Et du coup, ça veut dire que vous espérez faire vos première vendange, dans combien de temps ?
3 ans, puisque de toute façon, on n'a pas le droit de vendanger avant 3 ans, hein, puisque la réglementation est très très précise là encore. Donc dans 3 ans, théoriquement, on peut commencer à vendanger. Donc il faut un peu de patience.
Très émouvant, la démarche du clos de Nonville.
extraordinaire.
Patrick Féliot, en Seine-et-Marne. Tu fais aussi accessoirement, enfin très accessoirement, pas du tout, parce que c'est même pour l'instant le cœur de son activité, un maraîchage haute couture.
Très 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 haute couture, des espèces complètement oubliées comme les tomates.
Mais à des prix raisonnables, de... quand je dis haute couture, c'est dans la méthode de production.
Exactement, les tomates dites de Naples, les radis roses de Chine.
Tout à fait. Est-ce que vous avez vu pousser, Géraud Gentric, dans toutes les, vos pérégrinations franciliennes, des asperges?
Ouais.
Argenteuil? Non. Argenteuil, c'était le grand bassin de production d'une asperge blanche.
Asperge blanche.
Parce que là, on a dans nos assiettes, une autre surprise, d'Eva Jorena, des asperges qui sont franciliennes. Alors, pas d'Argenteuil, d'où ça?
Non, elles viennent d'Herblay.
Herblay, on est...
Toujours dans le 95.
Toujours dans le 95, Val d'Oise. Non, je fais le... une petite interrogation écrite de géographie. Et elles sont produites par...
Elles sont produites par les copains de... Pierre Rigaud, avec qui il fait des échanges. Donc lui, il produit toutes les pommes et les poires et plein de fruits rouges.
C'est ça.
Et avec ses copains, ils font des échanges entre fruits et légumes. Comme ça, ils peuvent abonder les marchés, chacun de leur côté, avec assez de quantité. Donc je les ai commandés via le Zingam également.
Oui.
Léo les a cuisinés.
Alors Léo, on rappelle que c'est le chef du Mingway.
Donc il nous a fait des asperges fumées au thym, avec une poutargue de mulet noir. Donc elles sont fumées, c'est-à-dire qu'il les a enfermées hermétiquement après les avoir blanchies. Il les a enfermées hermétiquement dans un bac gastro avec du thym en train de fumer dans le bac gastro. Et après, il les a passées rapidement au chalumeau. Donc là, elles ont ce petit goût fumé.
Ce petit goût un peu grillé.
Fumé et grillé. Et on a râpé dessus un petit peu de poutargue de mulet noir pour apporter quelque chose d'intéressant.
Bon, la poutargue de mulet noir, ça peut éventuellement se fabriquer à Paris, mais les mulets, en tout cas, faut aller un peu plus loin. En tous les cas, c'est un très chouette condiment salin qui se pose sur une asperge extrêmement croquante, juteuse, très belle. Avec bonne, pas habituelle. Fibreuse d'ailleurs,
non, pas du tout.
On dirait presque ça a la texture d'un fruit croquant.
Ouais, c'est une très jolie asperge, c'est vraiment très bon.
C'est le genre de vraiment de cuisine qu'on peut déguster chez Mingway.
Tout à fait, cette entrée, elle était à la carte il y a 3 jours.
Dans un menu
Dans un menu à 16 euros.
Ouais, dans un menu à 16 euros.
Ça sert à rien, c'est une
entrée, plat, dessert, voilà qui est très intéressant. La recette d'Eva Jorena, évidemment, comme toutes les autres sur franceinter.fr, à la page On va déguster.
On va déguster. Sur France Inter.
Ça tombe bien, on vous propose justement un plat légumier assez chargé en amertume, car c'est l'un des traits gustatifs de l'asperge. Est-ce que ça se passe bien côté accord, boisson, mets?
Ça se passe remarquablement
Jérôme
bien.
Jérôme Gagnès, ouais.
Ça se passe remarquablement bien. J'ai choisi de vous parler d'une brasserie qui est située à Montreuil et à Bonneuil, un peu au sud de Montreuil. Ils se sont agrandis. Qui s'appelle Deck and Donoyou. Alors spontanément comme ça, c'est vrai que Deck and Donoyou, c'est pas hyper montreuillois, c'est pas très très francilien.
C'est hipster, ça que vous voulez dire.
Mais en fait, l'origine c'est San Francisco, Thomas. Ah ben
c'est bien ce que je disais.
Voilà, Thomas Deck, oui. Thomas Deck et Mike Donoyou se rencontrent, font leur premier brassin en 2005. Et puis ils sont très copains, ils se disent que bien un jour ils feront de la bière ensemble. Et ça arrive en 2013. Mike traverse l'Atlantique et rejoint Thomas à Montreuil et il crée donc cette brasserie Deck and Donoyou. Alors pourquoi je vous parle de cette brasserie en particulier? C'est parce que je goûte souvent des bières artisanales, des bières qui sont faites autour de Paris ou plus loin. Je suis un grand amateur de bière et il s'avère que j'ai une direction particulière pour la Pils allemande. Donc j'aime bien les bières à la fine amertume, j'aime bien les bières avec des houblons allemands. Ce sont des houblons particuliers, chaque pays a ses propres houblons. Et donc j'aime beaucoup ce type de bière-là. Et j'étais toujours, jusqu'à présent, très déçu par les bières que je dégustais parce que, notamment dans les IPA, Indian Pale Ale, qui est un type de bière qui est houblonné avec des houblons américains, je retrouvais quelque chose que je trouvais vulgaire,
très
envahissant,
très
lourdeau, fatigant. En général, avec un peu de sucre résiduel, tout le monde était béat d'admiration devant ces trucs-là. Moi, je trouvais ça pas bon.
Oh, vous êtes sévère, il y a de très bonnes IPA quand même.
Où elles sont très difficiles à trouver, mais j'en ai trouvé chez Deck and Donoyou. Je me dis, ah, là, je tiens un truc différent parce que voilà, pour une fois, une bière qui sent pas le parfum pour les toilettes. Le truc saveur mangue, odeur mangue, enfin, c'est épouvantable. Et donc là, je me dis, tiens, on tient un truc qui est pas mal. Et Thomas Deck, Mike Donoyou est parti voguer vers d'autres aventures. Thomas Deck continue à tenir la boutique et Thomas me dit, je vais faire de la Pils. Je vous posais la question, parce que c'est très étonnant que cette bière absolument admirable, qui est née au milieu du 19e siècle, la Pils est une bière absolument merveilleuse, elle n'est pas plus pénétrer le marché français. Il me dit, bah si, moi j'en fais une. Pourquoi il y en a très peu? Parce qu'en fait, c'est une bière de fermentation basse.
Voilà, expliquez-nous techniquement.
Donc, pour être élaborée, elle demande un peu de matériel. Et donc, toutes les brasseries n'ont pas forcément le matériel qui leur permette de garder les brassins à 12 degrés, 15 degrés maximum. Et donc, ils font des bières de fermentation haute, qui sont les ales, donc Indian Pale Ale, les ales, les stouts, les bières d'abbaye, toutes ces bières-là sont des bières de fermentation haute. Et donc, il y en a très peu qui en font. Et lui s'est lancé là-dedans, ça fait 6 mois qu'il fait des essais, il a sorti ça en février. La pile, c'est une bière qui se boit vraiment fraîchement brassée. Donc, elle est disponible exclusivement en pression. Mmh. On fait une émission sur les terroirs franciliens. Vous en trouvez à Paris. Vous en trouvez en petite couronne. Vous avez les adresses sur le site internet. Et voilà une bonne pils qui m'a rappelé, sans être exactement l'équivalent, mais qui m'a rappelé ces bières que j'ai bues en Allemagne, qui étaient des bières très artisanales. Parce qu'autrefois, il y avait une petite brasserie par petit village, quasiment. Et ça m'a rappelé un peu ça. Et donc, pour faire le lien avec le thème de notre émission, une partie des matières premières proviennent de la ferme des Montgardet, qui est située donc à Clessouilly, dans le département de la Seine-et-Marne.
Donc c'est l'orge.
C'est l'orge, d'accord. Exactement. Et puis au final, cette orge qui va finir sous forme de drèche, c'est ce qui reste du brassin, une fois qu'il a été filtré, il est utilisé par cette ferme comme nourriture pour les animaux d'une part, et d'autre part, comme amendement. Et donc Thomas, il va se fournir aussi dans cette ferme en autres matières premières, et notamment des fruits, de l'hibiscus, notamment un certain nombre de plantes qui lui permettent d'aromatiser ses bières spéciales. Donc il y a un cercle vertueux. Et alors, il faut que vous alliez voir le site internet, la ferme des Montgardet, parce que cette friche, elle est étonnante. C'est 35 hectares qui sont bordés par une LGV, une ligne à grande vitesse, une autoroute, une ligne à très haute tension. Et donc tout ça fait que c'était une friche qui était inutilisée, ce qu'on appelle un laissé, un territoire laissé. Et c'est une dame, Agnès Sourisseau, qui a monté un projet avec l'aide de la SNCF pour créer cette ferme et qui est donc en fait un laboratoire d'agroforesterie. C'est très intéressant ce qu'ils font. Donc vraiment, d'abord buvez ces bonnes bières parce que cette pils, elle est rafraîchissante,
elle est amertume, elle est fine. Elle est subtile,
elle est
très
subtile,
délicate.
L'amertume est fine, elle est présente. Ça sent pas le produit à chiottes, donc on est content. C'est vraiment admirablement brassé.
Je crois que c'est biologique.
En fait, elle est en culture raisonnée et en bio. En fait, c'est un vrai laboratoire. Donc il n'y a rien de qui soit vraiment parfaitement labellisé. C'est vraiment une démarche très intéressante. Je vous invite à aller sur la page de l'émission. Vous aurez toutes les infos.
On peut les trouver où, ces bières Deck and Donoghue?
Alors, on les trouve à Paris. Est-ce qu'il y a une autre bière qu'on va goûter tout à l'heure, qui est la Mission Pale Ale? D'ailleurs, c'est amusant parce qu'elle est distribuée aux Ingames, que vous avez cité, dans le 11e. Et c'est une autre bière qui, elle, est une bière un peu plus houblonnée, donc un petit peu plus aromatique, mais toujours dans la finesse. Très jolie brasserie, Deck et Donoghue, à Montreuil, près de Paris.
Jérôme, vous témoignez qu'il y a un vrai élan brassicole aussi autour de Paris. Hein.
Exactement. Nous, on travaille également avec un autre producteur, plus petit. Eux, ça s'appelle Mappinès Beer. 94, c'est à moins de 5 km de Paris. Hein. Pour le coup, on est vraiment très, très, très proche. Et il fait toutes ses bières. Et la dernière fois, il a fait une bière au moût de raisin Gewürztraminer. Ça a marché, quoi. Enfin, c'est sympa, quoi.
On peut faire ça avec la bière, ça qui est bien. C'est qu'on peut faire plein de recettes, en fait. Ouais.
Toutes les informations sur franceinter.fr à la page On va déguster. Le nouvel album de Alex Baupin sort cet automne. Cours, camarade.
Cours, camarade. Le vieux monde est derrière toi. Les barricades. Les voltigeurs et puis quoi? Cours, camarade. Les épaves de pavés. Les bousculades. Les cocktails et puis après. Cours, camarade. Le vieux monde sans la poussière. Dernière ruade. Et on l'enterre à Nanterre. Cours, camarade. Redis-nous ton beau discours. Sur ton estrade. Le poing levé, le cœur lourd. Camarade. Le vieux monde reprend son souffle. quelques décades. Et tu rentres dans ses pantoufles. Cours, camarade. Tes affiches et tes slogans, comme tu les brades pour vendre des brosses à dents. Cours, camarade. Le vieux monde t'a rattrapé. Il est malade, tout prêt à agoniser. Cours, camarade, comme tu en crèves avec lui. T'as des bandades comme on en crève aujourd'hui.
On va déguster, vous êtes bien sur France Inter, dimanche 2 juin, le terroir francilien, c'est le menu de notre émission, et ce terroir francilien, il a le vent en poupe, ça on vous le confirme, les fermes biologiques représentent 7,7% des exploitations agricoles franciliennes, alors c'est encore une minorité évidemment, mais ça progresse très rapidement d'année en année, tous les signaux sont au vert, vous nous confirmez Géraud Gentry qu'il y a un élan agricole autour de Paris, c'est assez réjouissant.
Il y a un élan et surtout qui est soutenu par une demande fortement croissante, donc forcément que l'offre va suivre, quoi. Mais elle peine. Pour l'instant, mais c'est en train d'arriver, quoi.
C'est en train d'arriver, et vous allez nous donner d'autres exemples d'excellents produits qui sont produits, cultivés, élevés, vraiment pas très loin de Paris. Mais parlons de ce projet qui propose une réflexion sur un territoire, en l'occurrence Paris, mais qui s'étend sur d'autres parties de la France, à un projet solidaire mis sur pied en 2015 qui a pour but de venir en aide à des familles en grande précarité. C'est votre association, Eva Jorena, Ernest.
Alors, Ernest, c'est une grande famille de restaurateurs et commerçants solidaires qui est donc née en 2015. J'ai été voir des restaurateurs en leur proposant de majorer de quelques centimes un article de leur carte. Donc ça peut être 50 centimes sur une addition, 10 centimes sur un café, 1 euro sur un plat. Ça dépend vraiment des restaurants. Nous, on veut pouvoir travailler avec tout type de clientèle et donc de restaurateurs. Tous les fonds qui sont ainsi collectés dans les restaurants et les commerces participants nous permettent de financer des actions d'aide alimentaire locale. Donc concrètement, qu'est-ce que c'est ? Donc l'année dernière, on a créé ce programme des paniers solidaires sur Paris, donc sur l'Est parisien, même où les restaurateurs de l'Est parisien collectaient pour distribuer des paniers de fruits et légumes bio, produits en Ile-de-France, donc ils sont cultivés à Sevran, dans le jardin du Pont-Blanc. C'est que du bio, et en plus, les gens qui cultivent les légumes sont des personnes en insertion. Donc bon, c'est un cercle vertueux qui n'en finit pas. Et donc, ces paniers de fruits et légumes sont distribués chaque semaine, l'année dernière, à 60 familles, pendant un an.
Combien de restaurateurs parisiens participent à cette superbe opération ?
Alors, depuis 2015, on a travaillé avec plus de 200 restaurateurs, donc entre Paris, Toulouse, Bordeaux et Londres. À Paris, c'est là où il y en a le plus. L'année dernière, on en avait à peu près 60 collecteurs en continu.
Pour quelle somme environ récoltée ?
La première année du programme des paniers, on avait collecté 36 000 euros avec 30 restaurants en 6 mois.
Waouh !
Et donc, on a des restaurateurs voilà, qui continuent de collecter. Au Libelli, par exemple, le mois dernier.
Paris 10e
nous a fait un versement de 9 000 euros, qui représente 6 mois de collecte chez eux.
Oui, j'ai une question, c'est les restaurateurs qui participent ou les clients sont au courant ? Ça se passe comment ?
Alors, les clients sont au courant, mais le don est imposé. Quand on va chez Olibelli, quand on va chez Frenchy, quand on va chez Dame Jeanne ou chez Distrito, on a fait le choix de venir dans un restaurant solidaire et donc la note contient déjà une participation qui est indiquée bien évidemment à la fois sur le menu et par différentes biais de communication.
Mais c'est un prélèvement indolore et le résultat, on l'a ici, c'est un superbe cabas. C'est exactement le genre de panier que vous distribuez à ces familles de l'Est parisien en grande précarité. Voilà, un exemple de panier, c'est le panier qui a été préparé cette semaine.
Tout
attention, on joue aux devinettes, qu'est-ce que j'ai dans la main ?
Des blettes.
Des blettes.
Bravo, qu'est-ce que j'ai ?
De l'ail nouveau.
Des petits pois.
Ah, une batavia rouge.
C'est frais, hein ?
Des fèves.
Bravo, fèves fraîches, c'est délicieux.
Du brocoli.
Vous savez ce que c'est qu'un brocoli, Jean Gagnette ?
Ben oui, j'en mange. Je fais des pâtes au brocoli, c'est très très bon, avec du pesto.
J'aperçois des épinards.
Des pommes de terre.
Ah. Jolie.
Ah,
ils sont très beaux en
ça,
plus.
Ça, c'est de la famille des crucifères, de la famille des choux.
C'est un chou calé?
Non.
Non. Pak choy.
Ouais, pak choy.
Ouais, ouais. Voilà un exemple de tous ces légumes, là aussi cultivés en agriculture biologique aux portes de Paris, qui sont travaillés par les familles qui le reçoivent toutes les semaines, en fait.
Tout à fait. Donc, avec chaque panier est livré une qu'on appelle une feuille de chou. Donc il y a la description de tous les légumes qui sont à l'intérieur avec des recettes explicatives. On organise également des ateliers de cuisine avec les chefs membres du réseau Ernest qui accueillent les familles dans leur cuisine régulièrement. Et voilà, ce panier est distribué chaque semaine. Donc ça, c'est la taille d'un panier pour une famille. Et voilà.
Beaucoup de gourmets et de restaurateurs nous écoutent. S'il fallait, d'une manière ou d'une autre, donner un coup de pouce à Ernest, comment on peut s'y prendre? Toutes les coordonnées de l'association sont sur franceinter.fr à la page « On va déguster ».
Oui, venez manger dans les restaurants Ernest et venez participer à nos événements également. On réunit une fois par an dans chaque ville où on collecte les restaurateurs lors de grandes journées street food qu'on appelle les Ernest Fest. Le prochain à Paris sera probablement au mois d'octobre ou novembre. Et voilà, on invite tous les restaurateurs et c'est ça qui est génial. Ça va de la sandwicherie de quartier au restaurant étoilé à venir participer au cours d'une journée bénévolement à cette action et pour le plus grand plaisir des gourmands.
Très bien, merci beaucoup. Très belle initiative, Eva Jorena. Ça donne vraiment du baume au cœur. Je vous propose cette fois de rendre visite à une paysanne incroyable. Décidément, il y a des profils tout à fait intéressants qui se dégagent dans cette émission. Elle est installée au cœur du bocage gâtinais, toujours dans le département de la Seine-et-Marne. Mais bon, je suis allé en Seine-et-Marne, c'est vraiment le département le plus dynamique en termes d'agriculture. Elle est à la tête de Rouge Framboise, alors je ne divulgue pas son nom, elle veut rester discrète, elle tient à sa tranquillité et je respecte son souci d'anonymat. En tout cas, elle a un micro-verger conduit en agroforesterie dans lequel elle cueille tout au long de l'année des fruits cultivés et sauvages qu'elle transforme en confiture bio d'exception. C'est encore Géraud Gentric de Biovore qui a repéré ce talent. Elle nous fait pénétrer dans son jardin secret.
Alors, on entend les oiseaux, ça c'est important. Il y en a énormément. Vous voyez, on est en plein vent là, il n'y a pas une serre, il n'y a rien du tout. Et ils sont tous au niveau du sol, ils ont tous leurs racines au sol. Et ça, c'est aussi essentiel parce que c'est le sol qui donne le goût aux fruits. Donc il y a une osmose. Il y a une osmose entre tout le monde ici et c'est pour ça que c'est aussi agréable d'être là.
Vous avez même des fruits sauvages?
Oui, qui traversent les canicules qu'on a eues ces dernières années sans une goutte d'eau. Donc ça peut en effet jouer peut-être sur le volume, mais au niveau des concentrations de sucre, ça fait vraiment des fruits très 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 sucrés. Là, on a du genévrier, donc
des chênes,
et ça, noisetiers. Il faut tout seul. Les noisetiers, il y en a aussi là-bas. Tout ça fait un écosystème.
Ça, c'est des murs domestiqués, cultivés.
C'est un mur domestique, oui, pour faire opposition à la mur sauvage. Ça n'arrive pas au même moment, ce qui me permet d'échelonner les récoltes et donc les confitures. Il y a une partie qui arrive en même temps que les framboises, donc ça me fait faire, par exemple, des confitures framboises mûres. C'est vraiment ce qui est mûr au verger que je prends et que je transforme. Tenez, on va couper par là. Là, on passe devant les myrtilles.
Ah oui.
Et vous voyez, tous les petits fruits sont protégés par les arbres hautes tiges. Donc, ils sont composés de... Ben, il y a des pommiers, il y a une douzaine de variétés différentes. Il y a des prunes, on a des cerises. C'est vraiment très, très, très multi-espèces.
Fraises?
Oui. La mara des bois.
Ah.
Donc ça, c'est les prochaines fraises qui vont donner. Ça, c'est encore une troisième variété. Et tout ce mélange-là, on est sur les tomates.
Ah oui.
Là, on est sur de la romaine striée.
D'accord. Parce que l'idée, c'est aussi de faire des confitures de tomates.
Oui, tomates vertes. Confitures de tomates vertes. Ouais. Mais on va aller voir la menthe. Il faut que je vous fasse sentir la menthe.
Ah oui.
Sincèrement, elle est... Regardez la taille de ce... du rosier sauvage qui est là-bas.
Ah, incroyable. Oh là là, c'est carrément un énorme buisson. Ouais.
C'est énorme. Et là, ben, vous êtes en train de marcher sur... Vous voyez, on l'aperçoit ici.
Eh oui.
Sur la menthe.
Je peux en cueillir une feuille ?
Frottez-la entre vos doigts. C'est
assez frais, ouais. Et c'est une menthe sauvage.
C'est une menthe sauvage. Je ne sais pas comment elle s'appelle. Elle était là quand
Incroyable.
Je suis arrivée. Elle sera là quand je serai partie.
Et vous l'avez intégrée
Et elle fait partie de certaines de mes recettes, exactement.
C'est un abricotier, ça?
Oui, on la sent, c'est incroyable.
Ah ouais, c'est dingue.
Elle vient jusque là.
Et puis, par ailleurs, j'ai un peu marché dessus et ça embaume tout le jardin.
C'est extraordinaire. Hein. Et donc, bah, les abricotiers, il n'y en aura pas cette année parce que le gel, les kiwis, il n'y en aura pas. Le cognacier aussi, je pense, a pris cher, donc il n'y aura pas de coin, mais il y aura d'autres productions.
Vous me montrez juste le placard à confiture?
Oui. Donc là, on monte dans
un chalet sur pilotis.
Ouais.
Au-dessus de la mare.
Là, on arrive. Hop.
Ah, mais il y a quelques réserves en pot quand même.
Il n'y a plus beaucoup. Hein, ça, c'est les derniers parfums d'hiver. Vous voyez, je n'ai pas encore commencé les parfums d'été. Donc, on a essentiellement des produits à base de pommes, parce que c'est ce que j'ai en partie au verger. Donc, des gelées de pommes avec la menthe qu'on vient de croiser. Le même produit ici, donc travailler les jus des pommes avec le safran du Gâtinais.
Ah bah là, on peut pas faire plus terroir.
Ouais. Non, on peut pas.
Groseille coin, fraise. Qu'ils ont vos clients?
Donc beaucoup de ventes directes sur des foires du terroir, des choses comme ça. Quelques épiceries bio, mais alors ce sont vraiment des épiceries que j'ai choisies parce qu'il y a une dimension humaine. Et puis surtout, il faut que ça reste local. Donc elles sont à 25 km, je crois 30 grand maximum, quoi. Et il n'y a pas besoin d'aller plus loin. En fait, je suis un peu comme Mesa, finalement. Forme libre et indépendance et autonomie. Surtout l'autonomie. Hein. Il n'y a pas d'intrant, tout est fait. En fait, voilà, on peut aller voir les orties que je vais récupérer dans 2 jours pour commencer à faire les purins. Tout est fait au maximum sur la ferme. Et donc, tout ça fait qu'il y a un équilibre. Voilà.
Les confitures, coulis, gelées de rouge framboise, un verger en agriculture biologique, en plein bocage gâtinais en Seine-et-Marne. Ça aussi, c'est une de vos trouvailles, Géraud Gentric.
Exactement. Vous c'est pas évident de trouver déjà son jardin. Non, mais il n'y a pas de numéro, il n'y a rien, il n'y a pas de rue.
Elle est cachée, c'est un jardin secret.
C'est vraiment très compliqué. Et après, quand on rentre dedans, il y a un écosystème qui est mis en place. C'est hallucinant, quoi.
Confiture de fraises exceptionnelle, confiture de prunes.
Mais c'est en toute petite quantité, quoi.
Et je vous ai rapporté la gelée du Gâtinais. Donc là, c'est une gelée de pommes, vieille variété de pommes, d'un ancien verger, justement, une ancienne pommeraie qu'elle a rachetée, avec du safran du Gâtinais, Déborah.
La texture est très soyeuse. Mm-hmm. C'est étonnant, parce qu'on a l'habitude d'avoir des gelées soit coulantes, soit cassantes. Mm-hmm. Et là, on est clairement sur autre chose. C'est beaucoup plus velouté.
Avec un goût de pomme assez prononcé, Eva Jorena, vous l'avez goûté?
Oui, tout à fait, c'est très bon. C'est pas du tout acide, c'est doux.
De la gelée de pomme, on passe justement au crumble de pomme, puisque vous nous avez préparé avec votre chef Léo et Eva un crumble de pomme avec des pommes qui proviennent de la région parisienne.
Tout à fait, un crumble pomme rhubarbe. Je vous invite à le goûter.
Bah allons-y.
Dites-nous ce que vous en pensez.
Moi, j'ai déjà mangé la moitié de la part, il est juste terrible.
Faites-moi les 3/4.
Ah, bon ouais. Ah, vous aimez enfin quelque chose, c'est bien.
Ah oui, c'est très bon. Ah, l'apport de la rhubarbe avec cette acidité merveilleuse, c'est admirable.
Et puis la qualité du biscuit.
Oui.
C'est un petit peu caramélisé, ça colle un petit peu aux dents. Enfin, franchement, c'est un dessert très gourmand et qui est loin de l'image qu'on a du crumble où c'est parfois, on a l'impression que c'est juste des fruits avec un petit peu de biscuit en miettes dessus. Et là, non, là, il y a un appareil qui est lié et franchement, c'est très, 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 très bon.
Pomme, rhubarbe, hyper équilibré, dans l'acidulé, des bonnes grosses miettes un peu rustiques, gratinées au four. Bravo, bravo, c'est vraiment, vraiment délicieux. La recette à retrouver sur franceinter.fr, à la page On va déguster. On est au rayon dessert, on y reste avec Déborah Dupont.
France Inter, on va déguster.
Déborah Dupont qui va évoquer un fruit qui parle à votre enfance. On en révèle l'identité, c'est la cerise de Montmorency. Alors Montmorency, on est dans le Val d'Oise. Une vieille variété de cerises qu'on trouve plus beaucoup, il n'y a plus beaucoup de producteurs, c'est surtout une cerise qui pousse maintenant dans les jardins des particuliers.
Oui, et c'est pour ça d'ailleurs que pour moi elle est évocatrice du clafoutis, parce que dans la plupart des recettes de clafoutis, en fait, on nous conseille de prendre des variétés Bigaro, et là d'ailleurs, la Montmorency n'est pas encore arrivée, on est encore un tout petit peu trop tôt dans la saison, donc j'ai pris de la Burla aujourd'hui.
Parce que la Montmorency, avec son côté très acidulé, on la mange en général sur les cerisiers franciliens, entre juin... Et
oui,
juillet.
Entre juin et juillet, et là, vu le printemps un peu froid, un peu pluvieux, on va dire qu'on n'est pas une année très précoce en matière de cerises en tout cas. C'est effectivement une cerise apparentée à la famille des griottes, très acide, acidulée, qui est donc, en tout cas moi dans mes souvenirs d'enfance, on ne la mangeait pas à table, c'était vraiment la cerise que ma grand-mère cuisinait, donc moi ma famille paternelle vient de l'Essonne, sur Attismons et Juvisy, et c'est vrai que c'était le cerisier qui était dans le jardin, et donc j'ai vraiment grandi avec ce clafoutis, alors avec une recette qui est intraduisible à la radio, puisque ma grand-mère, elle a 99 ans, elle cuisine beaucoup moins maintenant, mais c'est
comment
vrai que c'était...
Comment s'appelle votre mamie?
Yolande, c'est Mamie Yo-Yo.
Mamie Yo-Yo, 99 ans.
99
Félicitations,
ans.
Félicitations, Yolande.
Et qui, en fait, quand on lui demande une recette, te dit, tu vois. Oui, mais quelle quantité, mamie? Mais tu vois. Donc là, j'avoue, je me suis approchée plus de la littérature culinaire pour vous parler donc d'un ouvrage. Et autant la plupart des cuisines régionales disposent de livres de référence, je pense au reboul pour la la Provence ou oui. le Margaridou pour l'Auvergne. Autant trouver un livre sur la gastronomie francilienne, non, c'est chose impossible.
Donc vous êtes débrouillée toute seule?
Non, pas tout à fait, car Paris connaît depuis quelques années maintenant une remise en avant en fait des bistrots, des bouillons, des brasseries. Et le Bouillon Pigalle a publié son livre, donc le Bouillon Pigalle qui est une institution parisienne, a publié son livre aux éditions Marabout à la fin de l'année 2018, donc Bouillon, les recettes cultes des bouillons parisiens. Et il y a une recette de clafoutis, mais de clafoutis ultra gourmand.
Elle est dingue.
Je n'ai jamais fait un clafoutis déjà avec de telles proportions. C'est-à-dire,
il y a un truc, il y a votre poids en beurre ou...
Ouais, alors, c'est ce que j'étais en train de me dire, c'est particulièrement costaud.
C'est
absolument dingue.
Il y a une épaisseur absolument dingue.
C'est la crème, le secret, les œufs et la crème.
Épaque un peu.
Donc je vous donne les proportions, attention.
Attention, accrochez-vous.
C'est pour 10 personnes, accrochez-vous bien. 310 grammes de sucre en poudre, 160 grammes de farine, 7 œufs entiers, 30 centilitres de lait entier.
Qu'est-ce que c'est que ce carnage?
30 centilitres de crème à 30% de matière grasse, 2 gousses de vanille, 50 grammes de cerise, et un petit peu de sucre glace pour saupoudrer. Et ensuite, la méthode, c'est très simple. Le clafoutis, c'est donc une sorte de flan avec des fruits à l'intérieur. Donc, on fait blanchir les œufs entiers avec le sucre. Mm-hmm. On ajoute la farine et les gousses de vanille grattées, mélangées au fouet, ajouter le lait, la crème, verser dans un plat beurré fariné, les cerises avec les noyaux. Mmh. Oui, j'avais interdiction dans ma famille, on ne retire pas les noyaux.
Mais pourquoi? Parce que d'abord,
ça détrempe la pâte.
Voilà, ça détrempe la pâte et la cerise perd son jus.
Oui.
Et deuxièmement, pardon, mais le noyau de cerise donne le goût.
C'est comme un poisson cuit sur l'arête ou une viande, enfin une côte de bœuf. L'os donne du goût, donc là c'est exactement pareil. On laisse les noyaux dans les cerises. Non, sinon je suis déshéritée de toute façon, donc la question ne se pose même pas. Donc répartir ensuite les cerises lavées et non dénoyautées, enfournées dans un four préchauffé à 160 degrés pour 30 minutes. Alors le 30 minutes, quand on est sur un plat en terre épais comme le mien, on oublie, on passe à 45, ce sera un peu plus sage. Et puis la surface est légèrement croustillante.
C'est
pour moi, c'est un vrai souvenir d'enfance, même si ça n'est pas la recette de ma grand-mère.
Vous avez oublié quelque chose dans la recette?
Du rhum?
Non, c'est qu'il faut prévoir 2 heures de sieste après la dégustation, quoi.
Là, c'est vrai que c'est costaud, mais c'est la crème, je pense.
Crème, c'est la vie, le gras, c'est la vie,
On est bien d'accord.
Ouais, mais c'est vraiment. C'est
très bien.
Vous en pensez quoi autour du plateau?
Je trouve ça excellent. Alors, le crumble et le clafoutis. Et pourtant, j'aime pas du tout le clafoutis. Ouais. C'est des trucs. C'est pas...
Mais là, je suis fan. Hein. Le flan, il y a des crèmes caramel.
C'est bon, quoi.
Et puis, pour une fois, on a des vrais desserts avec du sucre. C'est ça. Pas des desserts qui sont pas des desserts.
Bravo, un clafoutis pour lequel on prévoit un succès énorme. Merci. Ça, c'est sûr. On finit avec 2 mini coups de cœur. Géraud, Gentric, un peu de protéines animales, ça va nous faire du bien.
Exactement.
Nos amis véganes, on a parlé beaucoup de légumes et de cuisine végétale, évidemment.
Alors, en Seine-et-Marne, il y a Camille et Nicolas qui proposent en fait du brie noir.
Le brie noir,
donc, c'est un brie avec un affinage beaucoup, beaucoup, beaucoup plus long, c'est-à-dire entre 8 et 2 ans, quoi.
Parce que le brie, évidemment, cette pâte fleurie, on la trouve beaucoup en Seine-et-Marne.
Exactement.
Du côté de Melun.
Meaux,
bien sûr.
Alors, et Coulommiers, mais en fait, eux, cette ferme, c'est le seul brie bio fermier d'Île-de-France.
C'est la ferme Sainte-Colombe.
Exactement.
Mais quand on dit brie noir, nos auditeurs n'ont pas l'image, mais il s'agit vraiment d'un brie très foncé,
très
à l'affinage extrêmement poussé. Donc la texture, c'est pas du tout la pâte molle qu'on imagine avec sa croûte fleurie.
Il est deux fois plus fin déjà, on voit qu'il a réduit en épaisseur.
Il a perdu un tiers de son poids, exactement, ça fait plus qu'un kilo. La roue fait plus qu'un kilo au lieu de faire un kilo et demi.
Et alors c'est fort en bouche, qu'on dise à nos auditeurs.
Alors, ouais.
Quel usage? Un condiment comme ça sur un gratin?
Sauce, en risotto d'épeautre ou en râpé.
Le brie noir fermier de la ferme Sainte-Colombe dans le 77. Un dernier produit, Géraud?
Exactement. Alors, je peux également vous montrer la terrine, une terrine de porc bio, donc qui est dans l'Oise.
Alors, l'Oise, faut préciser qu'on n'est pas dans la région Île-de-France.
En fait, on est à moins de 5 km de Paris, donc ça reste quand même extrêmement local, étant donné que le circuit court, c'est 250 km. Et donc là, c'est la particularité. Donc c'est une ferme qui a été reprise par la fille Cécile. Elle est revenue de New York pour reprendre la ferme familiale. C'est ses cochons. Et elle transforme tout dans la ferme, dans son laboratoire, dans la ferme. Donc c'est un vrai produit. Il y a pas. En fait, on a le goût du cochon.
C'est magnifique. Non mais c'est bon.
Voilà. C'est merveilleux. C'est absolument formidable.
C'est la ferme Meussangui, c'est Cécile et sa Villotran. Dans le 60.
Et comme tous les produits que vous avez évoqués dans cette émission, Géraud Gentric,
on peut les retrouver sur votre appli Biovore.
Exactement, et sur le site internet.
Pour manger local. Il faut préciser, c'était logiquement une émission assez parisienne, il faut préciser que vous vous installez dans le sud de la France.
Exactement, donc là c'est un projet de descendre dans le sud, donc Lyon, Marseille.
Biovore, avec moins d'intermédiaires entre le producteur et le consommateur, ce qui permet de pratiquer d'ailleurs des justes prix. Bravo pour votre démarche et votre belle start-up. Giro Gentry, qu'on arrive au terme de cette émission. Eva Jorena, vous allez retourner évidemment à Wheel of Green, où vous attendent énormément de clients, avec Ernest et Mingwei, donc votre association solidaire, votre restaurant, cantine solidaire. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour les prochaines années ?
Que tout continue sur la même voie, j'ai à peu près tout ce qu'il me faut.
Participer aussi à Wheel of Green édition 2020, non ?
Ah oui, j'espère bien.
En tout cas, merci beaucoup de votre présence sur le plateau dont on va déguster. La semaine prochaine, on s'intéresse à un condiment emblématique dont les consommateurs français raffolent, le vinaigre balsamique. Oui, vous allez voir qu'entre le traditionnel et l'industriel, on trouve à boire et à manger dans le vinaigre balsamique. On est allé enquêter sur ce produit en Émilie-Romagne avec notre experte italienne Alessandra Pierini. Dominique Hutin et Estherelle Payani seront dans les fauteuils des chroniqueurs. Merci les amis, à la prochaine. Merci Déborah, merci Jérôme. À dimanche prochain, si vous avez encore faim.